Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous, juste un mot avant l'épisode d'aujourd'hui avec Frédéric Charillon pour vous dire un peu comment on va s'organiser la fin de l'année puisqu'il reste quelques épisodes inédits à diffuser avant la coupure estivale, il y en aura donc trois, celui d'aujourd'hui sur la France et sa place dans le monde. La semaine prochaine on parlera d'aviation militaire et plus généralement d'intégration des opérations aériennes mais pas seulement dans ce qu'on appelle le multidomaine avec des auteurs de la revue Vortex de l'armée de l'air. Et enfin, le dernier épisode inédit sera le 20 juillet, c'est un grand entretien assez exceptionnel que je vous recommande vraiment de ne pas rater, avec Gérard Chalian qui raconte des souvenirs de vie et d'enquête au cœur des guérillas de tous les continents pendant plus de 50 ans, qui, enfin, vous verrez, c'est vraiment pas banal comme émission et comme témoignage, ça fait longtemps que je l'ai en stock et je voulais vraiment terminer la saison avec, et vous verrez, il y a une raison. En ce qui concerne les épisodes du vendredi, donc on termine l'année sur le bunker de la semaine dernière et évidemment des épisodes inédits, donc des têtes chercheuses dans le viseur et dans le bunker reviendront à la rentrée. Pour tout vous dire, j'en avais plus en stock et ça a été une année un peu fatigante, donc j'avais pas vraiment envie de relancer des enregistrements début juillet. Je vais en rediffuser quelques-uns courant juillet pour garder le rythme bi-hebdomadaire jusqu'à la fin du mois. Évidemment, des épisodes un peu anciens dont je pense qu'ils valent le coup, notamment pour les auditeurs les plus récents qui ne seraient pas remontés jusque-là dans la liste des épisodes. Et puis, en août, je pense que je vais continuer aussi à rediffuser des épisodes anciens le mardi, selon la même logique, parce que évidemment on s'arrête, en tout cas moi je m'arrête et je prends un peu de repos, mais évidemment c'est pas pour ça que tout le monde est en vacances. Et disons que ça fait un peu comme une playlist ou des recommandations d'émissions anciennes de ma part, dont je pense qu'elles sont encore très pertinentes à écouter aujourd'hui pour ceux qui voudraient continuer à avoir régulièrement des collimateurs au cœur de l'été, qu'ils soient encore au travail ou déjà au milieu des vacances. Donc des épisodes tous les mardis jusqu'à la rentrée de septembre. J'en profite donc pour vous souhaiter directement un très bel été à tous, et donc on se retrouvera à la rentrée avec des émissions inédites. Et place donc à Frédéric Charillon pour un entretien qui est, je dois dire, très vif et très dense sur la place de la France dans le monde. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler de la France et de sa place dans le monde, la France n'est pas n'importe laquelle, comme dirait l'autre, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Charillon, professeur des universités en sciences politiques à l'Université de Clermont-Auvergne. Vous êtes aussi enseignant à l'ESSEC, à Sciences Po, coordinateur des enseignements en questions internationales à l'ENA, spécialiste de relations internationales et de politique étrangère, et notamment de la politique étrangère française. Et vous avez dirigé, pour ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, l'ouvrage collectif « La France dans le monde » publié chez CNRS Éditions. Donc bonjour et bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour, merci à vous.
Et je vais préciser aussi pour les auditeurs que vous êtes un ancien directeur de l'IRSEM, alors même si c'était avant la création du podcast, donc c'est la première fois qu'on se rencontre, je trouve ça très plaisant d'avoir au micro l'ancien pilote de cette belle institution.
Je suis ravi aussi.
Et vous avez donc fait paraître, il y a quelques mois, en début d'année, cet ouvrage collectif très substantiel qui vise à faire une sorte de bilan, disons, de tour d'horizon de la place de la France dans le monde. Donc vous l'avez dirigé, vous signez une très intéressante introduction, mais à l'intérieur, il y a aussi du très beau monde. Il y a des habitués du podcast que les auditeurs connaissent bien, comme Bénédicte Chéron, Olivier Schmitt ou encore Barbara Kunz, mais aussi d'autres universitaires de renom comme Christian Lequen ou Thierry Balzac. Et c'est donc, je l'ai dit, un tour d'horizon thématique, disons, par thème et par grande catégorie de cette place de la France dans le monde. Et je vais donner tout de suite, pour lever un peu le suspense, le constat global qui est le vôtre et que vous donnez dès les premières lignes de l'introduction, parce que j'aime beaucoup la formule, je la trouve très bien sentie, où vous décrivez donc la France aujourd'hui comme une puissance devenue moyenne qui aime à disserter sur son propre déclin avec un penchant affirmé pour l'autodénigrement ou l'insatisfaction. Alors pour employer une métaphore de saison, on pourrait dire que c'est un tacle viril mais correct, que ça joue après ça. Mais donc, on voit que l'ouvrage vise à voir ce que sont à la fois les différentes dimensions de la puissance, et en même temps, quels sont les outils que la France peut mobiliser, disons, pour la manifester. Mais au fond, en lisant l'article, puisque c'est un peu la question au centre, je me suis retrouvé à m'interroger sur cette notion de puissance, en quelque sorte, qu'on utilise à peu près tout le temps, quand on parle de relations internationales ou de stratégie, sans jamais vraiment l'attaquer de front, sur sa substance, en quelque sorte. Donc, pour partir vraiment d'une question très très générale, c'est Frédéric Chérillon, qu'est-ce que c'est que la puissance et à quoi ça se voit ?
Justement, c'est pas la question la plus facile, et il y a eu pas mal de réflexions déjà sur la question, et on est un peu dans l'impasse, parce que quand on regarde la situation internationale, on a l'impression que cette définition, elle change régulièrement. Si on prend un peu de recul, on regarde l'histoire, fin de la guerre froide, on se dit, la fin de la guerre froide montre que la puissance n'est plus dans la puissance militaire, dans les capacités militaires. La preuve, pense-t-on alors, l'Union soviétique s'effondre toute seule, alors que c'était un arsenal extraordinaire, y compris nucléaire. Donc c'est finalement la puissance économique, le soft power, la puissance de séduction, d'attraction, qui compte aujourd'hui dans le monde. Quelques mois plus tard, même pas quelques années, quelques mois plus tard, on a la guerre du Golfe, celle de 1990-91, invasion du Koweït par l'Irak. L'Irak se fait ensuite sortir du Koweït manu militari par les États-Unis, et à nouveau, c'est le grand retour de la force militaire. Et ce qui frappe tous les esprits à ce moment-là, c'est l'extraordinaire puissance américaine. À ce moment-là, on se dit, ah, si finalement, la puissance, c'est quand même l'action militaire, les capacités, la technique, la technologie de pointe, etc. Et puis, quelques mois plus tard encore, la Somalie, donc la première puissance mondiale qui vient de faire une démonstration de force, y compris technologique, au Koweït, les États-Unis se font malmener au point de devoir quitter la Somalie. C'était le fameux échec de l'opération Restore Hope qui a été immortalisée par le film Black Hawk Down. Et c'est comme ça depuis ces années-là, presque... peut-être pas tous les ans, mais il s'est passé un nombre de ruptures stratégiques permanentes qui font qu'à chaque fois on hésite sur le concept de puissance. Aujourd'hui, on ne va pas refaire toute la chronologie de ces 30 dernières années, on va sauter carrément à la période actuelle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que la puissance, ça peut se définir par des capacités. C'est vrai. Et que ça compte encore. On voit bien que la Russie, en Géorgie, mais aussi en Ukraine, en innovant, en biaisant un petit peu, en allant, je dirais, moderniser la notion de guerre hybride, mais par ses capacités, compte encore, c'est maintenu dans le jeu. C'est pas vrai partout. Au Moyen-Orient, la puissance capacitaire la plus forte, les États-Unis, a été marginalisée. Par qui ? Par des puissances comme l'Iran, qui ont beaucoup plus tablé sur des réseaux transnationaux. Et donc, aujourd'hui, effectivement, on est un peu perdu. On est obligé de faire je dirais presque une typologie des puissances. Il y a la puissance au sens de capacité, il y a la puissance au sens d'être capable d'atteindre ses objectifs, ce qui est tout à fait différent. Je pense à l'Iran ou au Moyen-Orient. L'Iran n'a évidemment pas les capacités militaires des États-Unis, mais a été peut-être plus habile pour faire progresser ses intérêts et gagner du terrain. Il y a une puissance qui n'est plus tout à fait le soft power, parce que le soft power était un concept très américain, fait pour les États-Unis et proposé d'ailleurs par des Américains, Joseph Nye entre autres. Ça s'est beaucoup élargi aujourd'hui. Il y a un soft power de régime autoritaire, il y a un soft power religieux, donc c'est un peu plus large que le soft power, mais on va dire quand même puissance d'attraction, puissance de conviction, puissance de mobilisation. C'est encore autre chose. Et alors, on regarde du côté des concepts qui ont été proposés pour mélanger tout ça et proposer finalement une sorte de mix, si vous me permettez l'expression. Le smart power, auquel Hillary Clinton tenait beaucoup, c'est-à-dire la capacité à mélanger tous ces registres d'action. Le sharp power, qui est plutôt celui des régimes autoritaires, qui consiste à retourner le couteau dans la plaie, à remuer le couteau dans la plaie dans les démocraties pour insinuer le doute à coup de fake news, à coup de trolls, etc. On n'a pas encore trouvé la bonne formule. Ce que l'on a compris, en revanche, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des ingrédients de la puissance qui sont plus ou moins sympathiques, hein, qui vont de la puissance d'attraction par la légitimité, par la capacité à offrir des possibilités de réalisation de soi à des individus, etc., jusqu'à des registres beaucoup moins sympathiques, effectivement, les fake news, la déstabilisation. Et aujourd'hui, il faut trouver un bon mélange dans ce camailleux compliqué.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce que vous nous décrivez, il y a une sorte de mélange entre le statut, c'est-à-dire le fait qu'il y a une sorte d'inertie de tout ça, il y a une idée qu'on se fait de telle ou telle puissance, etc. Et puis, il y a l'actualisation, c'est-à-dire la capacité... Enfin, je veux dire, le pouvoir, c'est une relation, c'est pas seulement, il n'y a pas de substance, c'est la capacité à forcer quelqu'un d'autre à faire ce qu'on veut, etc. Donc, il y a un mélange entre une idée globale et puis son actualisation au quotidien qui force peut-être à réévaluer ce concept. Alors, là, vous nous avez fait une sorte de tour d'horizon à la fois de puissance mondiale et régionale, mais puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc la France. Au-delà du constat peut-être un peu acide que vous avez fait dans l'introduction, c'est-à-dire où est-ce que... On entrera évidemment dans le détail ensuite. Où est-ce qu'elle se placerait ?
Ben c'est toute la difficulté, c'est qu'elle a du mal à se placer. D'abord, que vise-t-on, nous, la France ? Quel type de puissance souhaite-t-on être ? Alors, il y a deux questions différentes. Hein. Il y a quelles sont nos capacités, quels sont nos moyens pour peser encore ? Et il y a quel type de puissance nous souhaitons être ? Alors, dans les deux cas, il y a beaucoup d'ambiguïté et beaucoup de doutes. Alors, la France n'est plus... une superpuissance de la taille de ces géants hein, qui ont pris quand même beaucoup d'avance maintenant, États-Unis, Chine. La Russie, ça se discute davantage parce qu'économiquement, son poids est plus faible, mais enfin, son arsenal, son territoire sont immenses. On sait très bien qu'il y en a d'autres qui arrivent derrière, qui sont déjà même là, hein, l'Inde et beaucoup d'autres. Donc la France, ni démographiquement, ni sur le plan territorial, ne joue plus dans la même cour. Pour autant, ce n'est pas n'importe quelle puissance. Ce n'est pas une puissance négligeable. On le sait, c'est une puissance d'abord nucléaire, c'est une puissance qui a une armée qui, même si elle est beaucoup moins nombreuses que d'autres, a quand même un savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier, et puis surtout un savoir-faire de projection qui est très reconnu, et cette capacité à prendre ses responsabilités avec une opinion publique qui, sauf exception, suit quand même et soutient un certain nombre de prises de responsabilités. On est une puissance économique quand même si d'autres nous dépassent, on reste quand même dans un peloton tête mondial qui est tout à fait important. On a une présence dans les organisations internationales, un savoir-faire diplomatique. Bon, tout ça, on le sait, et pourtant, on sent bien que on a du mal à définir la puissance française, et plus exactement qu'on arrive à une sorte de fin de cycle. Alors, cette fin de cycle, c'est peut-être la fin du cycle qui avait été initié par le général de Gaulle avec ce que Maurice Weiss, dans son ouvrage consacré à la question, avait très bien résumé par son analyse de la grandeur. C'est-à-dire qu'il y a eu pendant très longtemps l'idée assez juste, me semble-t-il, que puisque nous n'avions plus la puissance autant en tout cas que les superpuissances, il nous fallait avoir la grandeur, c'est-à-dire compenser en quelque sorte ce que nous n'avions plus matériellement et sur le plan capacitaire ou économique, par la justesse du verbe, par la prise de responsabilité.
Et alors il y a une citation de De Gaulle lui-même qui est relevée dans l'ouvrage, qui est un propos rapporté, je crois, qui le dit tout à fait bien. Il dit « C'est parce que nous ne sommes plus une grande puissance qu'il nous faut une grande politique, parce que si nous n'avons pas une grande politique, comme nous ne sommes plus une grande puissance, voilà. Nous ne serons plus rien. »
Alors ça, c'était le paradigme pendant très longtemps, et qui était tout à fait judicieux compte tenu de la situation de l'époque. La question est de savoir si on peut encore faire ce grand écart et compenser la perte relative. Hein. On l'a dit, la France est tout sauf n'importe quel pays. Ça reste un pays qui compte, mais bon, on est relativisé, hein, le monde est de plus en plus pluriel, donc forcément on subit une relativisation. Est-ce qu'on peut encore compenser ça par le verbe et par l'analyse et par la justesse de l'analyse ? Est-ce que ça suffit encore ? Dans un monde qui est de plus en plus critique, où les individus s'expriment de plus en plus, où les attentes vis-à-vis de tout type d'autorité, d'ailleurs dans une compétition extrême, parce qu'il n'y a pas que les États maintenant. On voit bien que des populations, lorsque les États ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins, se tournent vers d'autres acteurs qui peuvent être par ailleurs des acteurs fort antipathiques. Ça peut être aussi des acteurs sympathiques comme les ONG, etc. Mais ça peut être aussi des mafias, ça peut être des groupes radicaux, ça peut être, etc. Est-ce qu'on peut encore, dans ce monde-là, compenser le fait de ne plus être en mesure de délivrer, si je puis dire, des besoins, ou en tout cas de répondre à des attentes de population, par un discours, par le verbe, par l'analyse? Il y a un exemple qui a été, à mon avis, frappant, c'est la guerre, il y en a deux presque, il y a la guerre pour la France, la guerre d'Irak de 2003 et la question syrienne 10 ans plus tard, en 2013. Dans les deux cas, on peut penser que la France avait vu juste. Et que sa position était d'ailleurs reconnue comme pertinente par beaucoup, beaucoup de monde, et probablement par une grande majorité de, à la fois des élites, des populations et des gouvernements mondiaux. En 2003, on dit aux Américains, vous vous trompez, vous allez mettre la région à feu et à sang dans cette guerre du Golfe, il ne faut pas y aller. Bon, on a la grandeur, c'est-à-dire qu'on n'a plus les moyens de s'opposer, mais on a l'analyse juste. Oui, mais ça nous a rapporté quoi ? C'est-à-dire que la guerre a eu lieu, la région a été à feu et à sang, on n'a pas pu faire grand-chose, on a pu mettre le pied dans la porte à un moment, on a pu dire nous ne sommes pas d'accord, on a pu même bâtir une coalition pour empêcher que les Nations Unies donnent un blanc-seing à cette opération, mais on n'a pas pu l'empêcher. Syrie 2013, c'est encore une autre histoire, c'est-à-dire qu'on a une position qui moralement se défend tout à fait, qui est de dire... voilà un régime qui lance des armes chimiques sur ses propres populations, c'est une ligne rouge, on ne peut pas laisser faire. Bon, les Américains ne suivent pas, comme on le sait, et on est non seulement on ne peut rien faire seul, mais on va se retrouver marginalisé, parce que nous avons fait d'une position qui est sans doute moralement juste, c'est-à-dire on ne peut pas discuter avec un régime qui fait ça. Et donc, tant que ce régime sera là, et tant que ce leader syrien sera là, rien ne sera possible, c'est notre position. Sauf qu'il gagne, entre guillemets, on peut en discuter pendant des heures, mais en gros, il gagne, mais il reste en place, et donc nous nous retrouvons marginalisés. Ça, à mon avis, c'est la fin d'un cycle. C'est-à-dire que nous avons la grandeur, au sens où nous avons la capacité d'analyse, la justesse de la pensée, mais ça ne suffit plus. Et donc, on en revient à la question tragique des moyens.
Mais la question qui est très intéressante là-dedans, c'est que donc il y a un... Il y a un truc de déclin, enfin pas forcément décliniste, au sens où c'est pas forcément connoté négativement, etc. Mais il y a l'idée que bon, bah, la France est en retrait. Et en fait, c'est une idée qui est largement admise, il n'y a pas de souci. Mais à chaque fois, je me demande en fait en retrait par rapport à quelle période, selon vous ? C'est-à-dire, selon vous, quelle est l'espèce de grand référentiel, plus ou moins inconscient, auquel on renvoie ? Est-ce que c'est quoi ? La France de Louis XIV qui était maître de l'Europe, Napoléon, l'Empire colonial mondial ? De Gaulle peut-être, même si on a vu avec la citation que j'ai donnée tout à l'heure et à laquelle vous faisiez référence, qu'il y avait déjà une conscience du déclin sous De Gaulle, précisément, c'est pour ça qu'il y a eu la politique de la grandeur. Donc c'est en quelque sorte ce constat qu'on fait en permanence, que la France est en rétraction, en tout cas relative, dans son influence. C'est quoi le point de comparaison, à votre avis ?
Justement, je crois qu'il faut arrêter de penser comme ça. Et je pense que c'est une erreur de chercher un point de comparaison, et vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est là que se trouve l'impasse. C'est-à-dire qu'on a l'idée d'un âge d'or, mais on n'est même pas capable, enfin, la plupart des gens qui ont cette idée qu'il y a eu un âge d'or et que voilà, tout est foutu, on est dans le déclin, etc. Eux-mêmes, si on les interroge en leur disant « mais par rapport à qui ?» Alors généralement, c'est quand même le général de Gaulle. C'est la période gaulliste qui revient quand même beaucoup dans le discours. Mais je pense qu'il ne faut pas penser comme ça. Je veux dire, sinon, on est tout le temps en déclin. Je veux dire, Clémenceau, c'était plus Louis XIV, hein, c'était plus non plus Napoléon. Et le général de Gaulle, c'était plus non plus l'époque où la France était... voilà. Donc il faut ajuster sa position, il faut réinventer sa grandeur et sa puissance en permanence. Et donc chercher un âge d'or en permanence, c'est très difficile. Alors je crois que dans le cas, au moins de façon inconsciente, parmi les gens qui sont déclinistes, les points de repère, c'est pour beaucoup quand même l'époque du général de Gaulle, c'est-à-dire ce moment où on a été très identifié dans notre politique étrangère, de façon très lisible, avec des pays qui nous acclamaient, qui attendaient le message de la France. Pour d'autres, c'est plus ambigu, c'est l'Empire colonial. Et le déclin date de la décolonisation. C'est pas forcément la même partie de l'échiquier politique, mais ça existe aussi. D'autres situent le déclin un petit peu plus récemment même. Ils estiment que, bon, en fait, après Mitterrand et peut-être Chirac, ça a été terminé. Bon, mais si on s'amuse à ça, on sera toujours en déclin par rapport à quelque chose. Il faut regarder les pays qui sont beaucoup plus petits que nous et qui ont beaucoup d'influence. Il y en a. Je veux dire, si vous regardez, pas forcément une influence mondiale, mais il y a des pays qui ont trouvé des niches, qui ont trouvé des types d'influence et qui n'ont pas ni l'histoire de la France, ni les ressources de la France. Donc c'est ça, à mon avis, qu'il faut faire plutôt que de regarder sans arrêt en arrière.
Mais alors ça pose aussi une question qui est très intéressante, qui est celle du dispositif de cet ouvrage. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais c'est un ouvrage qui fait partie d'une collection que vous dirigez d'ailleurs chez CNRS Éditions. Donc on a eu les États-Unis, le Japon, la Chine, dans le monde à chaque fois, évidemment. Ouais. Mais du coup, l'originalité, là, c'est que, pour une fois, vous avez des auteurs français qui parle de la France. Oui. Et donc ça pose la question de la...
Un peu des Français, hein, d'ailleurs, il y a quelques...
Mais il n'y en a pas, c'est quand même la très grande majorité.
Deux, trois, ouais.
Mais du coup, c'est extrêmement intéressant parce que ça pose la capacité à avoir, en quelque sorte, un retour réflexif sur son propre pays. Et j'y repense parce qu'on parlait du gaullisme, mais par exemple... C'est évident qu'il y a un mythe gaullien en France, très clair, et que notamment parce qu'on mélange un peu toujours la guerre et la période 58-69. Mais je veux dire, est-ce que, par exemple, on n'exagère pas en France que ça a vraiment été cette phase-là de la France dans le monde ? Je veux dire, est-ce que le concert des nations était autant époustouflé sur le moment par le panache gaullien qu'on aime aujourd'hui en France penser que ça a été le cas ? C'est-à-dire, quel est le niveau de distance et de discernement qu'il est possible d'avoir en tant que Français pour évaluer la place de la France passée et présente ?
Oh bah c'est toujours difficile de parler de soi, mais en même temps, il faut le faire, parce que regardez, l'immense majorité des analystes sur la politique étrangère américaine sont issus des États-Unis. Bon, il y a énormément d'ouvrages, avec d'ailleurs des tendances très très différentes, ceux qui propose ou qui prône une modération beaucoup plus forte en politique étrangère, ceux qui restent sur l'idée d'un hubris, il y a plein d'auteurs. Je crois qu'il faut qu'on le fasse aussi. Il ne faut pas s'empêcher soi-même de regarder avec un regard critique sa propre politique étrangère. C'est effectivement assez difficile. D'abord parce que vous avez raison, il y a toujours ce mythe gaullien. Alors, pas seulement un mythe, c'est vrai que la France était particulièrement respectée sous le général de Gaulle. Il a quand même contribué à sortir le pays d'une assez mauvaise passe avec l'affaire algérienne, où on était quand même mis au banc de toute une partie du Sud en tant qu'ignoble puissance coloniale, etc. Il a transformé ça en politique arabe et au-delà en politique à l'égard du Sud, dans une posture très universaliste. Donc de ce point de vue-là, on comprend très bien pourquoi il y a beaucoup d'attachement à cette politique-là. Maintenant, le débat actuel, puisqu'il faut le nommer souvent, entre ce qu'on appelle les néoconservateurs et les gaullo-mitterrandiens, ça c'est un terme qui est plutôt cher à Hubert Védrine, d'ailleurs, ces acteurs-là...
Qu'est-ce que c'est, disons-le, parce que c'est tellement bizarre de mettre gaullo-mitterrandien dans la même expression.
Ces acteurs-là sont les premiers à dire qu'aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Ils le savent. Enfin, ils sont suffisamment intelligents pour savoir qu'on peut pas sanctuariser un terme éternellement. Non, l'idée de gaullo-mitterrandisme, c'était que la France a une place à part, qu'elle ne se réduit pas à être un membre de l'OTAN ni à un membre de la famille occidentale, qu'elle a une posture universaliste, qu'elle souhaite avoir une voix différente, qu'elle est un allié des États-Unis au sein de l'OTAN, mais elle n'est pas que ça, et au sein de cette alliance, elle considère que le rôle d'un allié, c'est de dire la vérité, y compris quand on n'est pas d'accord. Bon, si on résume, c'est quand même un petit peu ça. De l'autre côté, ce qu'on appelle les néoconservateurs à la française, ça c'est beaucoup plus ambigu. C'est peut-être, alors certains estiment que ce sont les partisans de l'intervention militaire, d'autres que ce sont les partisans d'un occidentalisme très fort, à la fois atlantiste, etc. Bon, en réalité, je crois qu'il faut revoir toutes ces catégories. D'abord parce que gaullo-mitterrandien, ça renvoie aux années 60 et 80. Le monde a quand même légèrement changé depuis. C'est quand même des années où Taïwan avait une économie supérieure à celle de la Chine, où il y avait encore une Union soviétique, la Yougoslavie, j'en passe. Néo-conservateur à la française, c'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les néo-conservateurs américains, c'est une trajectoire quand même très particulière. Ce sont des gens qui viennent de la gauche pour ensuite adopter une diplomatie transformationnelle. Bon, nous n'avons pas, nous, les mêmes moyens. Si on voulait avoir une diplomatie transformationnelle, seule chose qu'on puisse faire, c'est demander aux Américains s'ils veulent bien le faire pour nous. Mais on n'a évidemment pas les mêmes moyens. Donc, je crois qu'il faut vraiment... ce sont des catégories intéressantes, parce que ça permet de situer enfin un débat, des pensées ou des sensibilités différentes, mais
ce sont des catégories qui sont très incorporées. Enfin, je veux dire, l'ouvrage rappelle volontiers que c'est un mot que Emmanuel Macron a prononcé.
Oui.
En 2017, quand il est arrivé, alors on peut dire aussi peut-être qu'il a grandi en termes de compétences en politique internationale depuis lors, c'était pas de là qu'il venait, mais en 2017, il disait qu'il fallait mettre fin à une décennie de néoconservatisme importé. Ce qui est curieux. Enfin, vous le soulignez, c'est pas exactement, quand on connaît un peu des diplomates français, c'est pas exactement le même profil que les think tankers américains qui ont fini par faire la diplomatie Bush.
Non, c'est pas la même chose. Et puis d'abord, enfin, c'est vrai que néoconservateur, est-ce que ça veut dire interventionnisme ? Et on a bien vu au moment de la Syrie en 2013 qu'on ne pouvait pas le faire tout seul. Est-ce que ça veut dire atlantiste ? Mais là encore, on sait bien que ça ne veut pas dire la même chose d'être atlantiste sous Obama ou sous Trump. Ou évidemment sous Bush. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qu'on taxait d'atlantisme ou de néoconservatisme français qui ne supportaient pas Obama, qui étaient extrêmement, enfin en France, très critiques à l'égard d'Obama. Donc voilà, tout ça doit être. C'est une bonne base de départ. Parce que ça lance le débat sur la politique étrangère, et à ce titre, c'est tout à fait précieux. Néanmoins, il faut évidemment maintenant aller plus loin et continuer ce débat.
Si on entre un peu dans le détail maintenant, c'est un ouvrage qui, je l'ai dit, prend les choses vraiment thématiquement. Alors évidemment, il y a tout le versant stratégique et militaire, mais c'est quelque chose dont on parle très souvent ici, donc on peut peut-être commencer par d'autres volets de la puissance française pour changer, notamment parce que c'est aussi la base de la stratégie, disons, depuis Clausewitz, que de ne pas considérer que le militaire ne s'explique que par du militaire. Sinon, les situations en Afghanistan ou au Sahel seraient bien plus paisibles. Et donc, j'aimerais commencer par ce qu'on présente souvent comme le grand facteur sous-jacent, l'arbitre des batailles sur la scène internationale en quelque sorte, qui expliquerait la montée de la Chine ou de l'Inde, qui est la puissance économique. Alors, restons sur la France, vous y avez fait référence très rapidement tout à l'heure, mais on sait qu'au classement du produit intérieur brut, la France est 6e ou 7e selon les années. Mais ça n'explique peut-être pas grand-chose. Donc, pour prendre en quelque sorte ce qui serait la base, le soubassement des autres puissances, la puissance économique, quelle puissance économique a la France ?
Elle n'est pas si négligeable qu'on veut bien le dire dans le débat français. Hein, si vous regardez la presse ou les experts internationaux, la France est quand même plutôt bien classée. On reçoit quand même beaucoup de louanges. On a des difficultés, comme tout le monde. On sait très bien quels sont les blocages, voilà, quelles sont les améliorations possibles. On sait très bien qu'on est un pays qui paye beaucoup d'impôts. Que c'est plus difficile qu'ailleurs de créer des entreprises, etc. etc. On a vu aussi dans la crise sanitaire un certain nombre de limites, mais... Globalement, on a quand même une tendance à s'auto-flageller beaucoup plus dans la presse française que dans The Economist ou Financial Times ou d'autres, où là, les analyses sur la France sont quand même beaucoup plus optimistes. Donc, néanmoins, là où je crois qu'on a un petit problème avec ce critère économique, c'est qu'on se compare à l'Allemagne en permanence. Et là, effectivement, on est derrière. On est derrière et ça nous traumatise. Et on a fait le constat dans les années Merkel que la force économique de l'Allemagne lui conférait une énorme autorité politique dans le monde. Et ça a mis à mal un schéma auquel on voulait peut-être s'accrocher pendant longtemps, qui était de dire il y a un partage du travail en Europe, en gros il y a le leader, la locomotive économique qui est l'Allemagne, et puis il y a la locomotive diplomatico-militaire politique, c'est nous. Et c'est un tandem qui marche très bien comme ça. Et là, on a eu un peu l'impression de se faire avoir, si vous me permettez l'expression, c'est que on s'est aperçu qu'effectivement, Mme Merkel, forte d'une économie qui n'est pas non plus exempte d'ailleurs de quelques fragilité, hein, qu'on souligne assez peu en France, mais on le sait, c'est une économie qui dépend énormément quand même des exportations. Bon. Bref, on s'est aperçu quand même que cette force économique de l'Allemagne conférait à l'Allemagne une stature politique. Quand on va en Asie, quand on va un peu partout dans le monde, il ne fait aucun doute pour la plupart de nos interlocuteurs que la puissance européenne aujourd'hui, c'est l'Allemagne. Donc ça, alors il y a eu une réflexion au plus haut niveau de l'État, dans les années 2010, notamment d'ailleurs à l'époque où Laurent Fabius était au Quai d'Orsay, de beaucoup de gens qui ont fait ce constat et qui ont dit là il faut qu'on fasse quelque chose parce que effectivement tant que nous n'aurons pas dégagé les marges de manœuvre qui nous permettront d'avoir une ambition internationale, c'est-à-dire tant qu'on n'aura pas fait un peu le ménage dans nos comptes et dans nos équilibres budgétaires, on ne pourra pas avoir toute l'ambition qu'on souhaiterait avoir. On ne peut plus continuer pendant très très longtemps à dire l'économie c'est l'Allemagne, le reste, le leadership politique c'est nous, parce que ça ne marche plus comme ça. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle...
Une version moderne de l'Allemagne paiera, quoi.
On n'en est plus là, mais l'idée,
qu'on peut construire... la France a une stature diplomatique et internationale que l'Allemagne n'a pas, mais qu'elle repose sur le soubassement allemand.
Oui, et puis on a bien vu que voilà, le prestige politique suivait, et ça nous a fait un petit peu mal à l'ego. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est nul. On reste une grande puissance économique, tout le monde le sait, avec des forces aussi.
Oui, c'est ce que l'ouvrage souligne notamment, c'est que... si on regarde la balance commerciale, effectivement, c'est pas forcément brillant, mais notamment la France a énormément de filiales à l'étranger, ce qui vient du fait d'avoir des grands groupes qui se diversifient à l'étranger. Alors il y a aussi d'autres raisons, parce que c'est pratique pour ces grands groupes de se diversifier, mais en tout cas, ça fait des réseaux, ça fait des structures d'influence économique à l'échelle mondiale qui se voient pas forcément sur une balance commerciale, mais qui sont très réelles, quoi.
Oui, non, on a des forces, c'est évident, mais bon, voilà, on a aussi des on l'a vu, il y a un tissu social aussi qui est très fragile. C'est peut-être d'ailleurs plus là notre problème économique en réalité. C'est la fragilité du tissu social. On l'a vu au moment de chaque fois qu'il faut faire une réforme, ça fait peur à certaines catégories de population. Ça tourne vite à une tension forte, et de ce fait, c'est plus difficile de réformer. Voilà, on connaît tous ces blocages. Pour autant, il faut arrêter de dire que la France est une économie qui est nulle dans le monde. C'est pas le cas.
Alors, maintenant, justement, j'aimerais passer à la traduction concrète de ça sur la scène internationale et aux moyens donc de préserver un statut malgré ce déclassement, en tout cas économique, possible en termes de relations internationales et diplomatiques. Et là, ce qu'une contribution très intéressante de Christian Lequesne montre très bien, c'est que il y a quand même un outil diplomatique français extrêmement puissant encore. Alors c'est un très gros réseau d'ambassades et de consulats dans le monde, le troisième après les États-Unis et la Chine, ce qui est important parce que c'est des choses qui fonctionnent au quotidien, même avec des pays avec lesquels on n'a pas des relations économiques énormes. Mais ce qui montre aussi, c'est que l'originalité, c'est aussi l'ambition de la diplomatie française par rapport à la puissance diplomatique effective. C'est-à-dire que l'originalité, c'est d'avoir une diplomatie globale, c'est-à-dire un avis et une position sur tout, ce qui, en fait, en le lisant, je me suis dit, effectivement, c'est pas si évident. On a l'habitude en France que la France se positionne sur quasiment tous les sujets du monde, mais en fait, il y a énormément de pays qui abandonnent des thèmes entiers et qui ont pas forcément de position, alors que la France a quand même la volonté d'avoir une réflexion stratégique complètement transversale.
Alors, c'est à la fois un atout énorme et en même temps, il y a au moins deux pièges. Vous avez parfaitement raison, on a cette ambition d'universalisme à la fois dans l'idéologie, si je puis dire, et d'universalité dans le réseau. Il y a un atout, c'est que nous sommes un pays qui compte parmi les très rares à avoir effectivement une vision globale, ce que les Américains soulignent beaucoup. Quand on discute avec des think tanks ou des think tankers américains, souvent ils nous disent, on est en désaccord avec vous les Français, parce qu'en réalité, pour une bonne raison, c'est que vous êtes pratiquement les seuls avec nous à avoir encore une vie, en tout cas dans le monde occidental, avoir une vision globale. Donc ça, c'est en soi, c'est une bonne chose de vouloir essayer de regarder le global picture, comme diraient justement les anglo-saxons. Et alors, est-ce qu'il faut vraiment commenter la moindre chose qui se passe dans le monde en disant nous approuvons, nous désapprouvons, nous regrettons? Ça, c'est une autre histoire. Mais le fait de vouloir conserver une vision globale est une bonne chose. Maintenant, il y a deux pièges. Le premier piège, c'est que nous avons quand même tendance à considérer que l'influence passe par la présence. Et que plus nous restons présents, plus ça veut dire que nous sommes très forts et très influents. C'est pas sûr. C'est une vraie question. Moi, j'ai pas la réponse. Parce que j'avais tendance à penser l'inverse, à trouver qu'on avait trop d'ambassades. Bon, j'ai discuté avec beaucoup de diplomates qui m'ont expliqué pourquoi c'était important, pourquoi il fallait quelqu'un sur place, même dans un tout petit pays. On a un peu plus de 160 ambassades bilatérales dans le monde. Il y a à peu près 193 ou 14, ou en tout cas un peu moins de 200 pays sur la planète. Ça veut dire qu'on a quasiment une ambassade partout, sauf dans des pays vraiment dont beaucoup de gens dans le monde ne savent pas que ce sont des pays.
Alors pourquoi
Parce qu'on veut être, on veut avoir un réseau universel. Maintenant, la question est de savoir
Je veux dire, pourquoi est-ce que c'est important sur place?
Parce que quand il y a des marchés, quand il se passe quelque chose, on a notre personnel, notre ambassadeur, notre représentant qui est là. Et qui y va tout de suite, et qui est sur place. Et c'est un contact permanent, c'est une présence physique qui permet de tisser du réseau, et ça crée des liens de confiance. Maintenant, est-ce que parce que nous avons des ambassades partout, est-ce que parce que nous avons des bureaux d'Air France ou des escales d'Air France extrêmement nombreuses, est-ce que parce que nous avons Radio France Internationale en tant de langue, etc., est-ce que vraiment ça fait influence? Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas, par exemple, quelque part, avoir une ambassade régionale avec des moyens de fonctionnement beaucoup plus élevés qui permettent de rayonner vraiment sur la question, sur la région? Ça, c'est une vraie question. Nous avons tendance à considérer que la présence fait toujours l'influence. Et le deuxième piège, c'est ce concept de rayonnement, justement. C'est-à-dire que nous sommes très soucieux de ce que nous appelons nous-mêmes le rayonnement. Et le rayonnement, j'avoue que j'ai du mal à le définir. Le rayonnement, c'est quoi? C'est qu'on nous repère, qu'on nous identifie, qu'on nous aime, qu'on nous associe immédiatement à des mots-clés, à des marques. Bon, oui, mais est-ce que tout ça se transforme en influence politique? Ça, c'est une vraie question. On fait partie de ces quelques pays qui avons une culture reconnue comme effectivement brillante, profonde, attirante et tout ce que vous voulez. Le Japon en fait partie aussi. Le Japon avec peut-être un peu plus de modernité que nous, parce qu'ils ont aussi des vecteurs qui permettent de toucher des populations beaucoup plus jeunes. Les mangas, Cool Japan, J-pop, etc. Donc, on fait partie de ces pays dont le monde entier reconnaît la grande culture. Est-ce que pour autant, cette adhésion, cette affection pour une culture est exploitable politiquement? Est-ce que c'est un public qui va nous soutenir au moment où on en aura besoin, où on se fera attaquer peut-être aux Nations Unies par d'autres pays c'est pas certain. Regardez, dans les derniers mois, on a été très très incompris sur le concept de laïcité. Lorsqu'il y a eu des attentats, on peut penser à l'affaire Samuel Paty, on a eu beaucoup de mal à faire passer notre message. Ont été critiqués aussi bien du côté du monde musulman que au sein d'un certain nombre de nos alliés en Amérique du Nord, notamment. Et là, on doit se poser la question de savoir si tout ce rayonnement et cette présence est mobilisable à un moment donné pour nous soutenir politiquement quand on en a besoin. Même constat d'ailleurs en 2003, dans la crise irakienne, au moment où nos amis américains faisaient du French bashing, comme on disait à l'époque, où ils ont même voulu débaptiser les French fries, qui pour nous est un sacrilège absolu, pour les appeler les Freedom Fries, où vraiment ça allait très très mal, on s'est aperçu qu'on n'avait pas de French caucus, comme on disait, c'est-à-dire une espèce de groupe de pression français au Congrès. Et là, je crois qu'il faut vraiment qu'on se penche sur cette question des outils d'influence.
Mais notamment parce que, juste pour rester encore une seconde sur l'outil diplomatique, ça pose la question de la flexibilité et de son efficience, parce qu'on peut dire que c'est un outil qui est en rétraction. Alors, entre 2007 et 2020, c'est-à-dire que la diplomatie française a perdu 20% de son budget et 20% de ses effectifs, donc ça fait 3000 agents quand même, ça fait beaucoup. En même temps, j'ai envie de dire, c'est une bête facile à taper, quoi, parce que c'est l'image, enfin, c'est des réceptions Ferrero Rocher. Enfin, je veux dire, c'est une cible assez facile pour quand il s'agit de réduire les coûts, en tout cas politiquement. Alors la question, c'est est-ce que on peut faire mieux avec moins? Est-ce que il y a, parce que le corollaire d'un appareil si grand et si large, c'est que forcément il y a aussi de l'efficience, il y a aussi des angles morts qui sont peut-être à rationaliser. Disons, quel redéploiement, quelle est la flexibilité de cet outil et comment est-ce qu'il peut gagner peut-être en efficience dans une scène globalisée? On n'a peut-être plus besoin, l'ambassadeur sur place, ça a une importance évidemment toujours, mais on n'a peut-être plus besoin d'avoir autant de personnel autour de lui à une époque où on a Internet et des messageries instantanées, quoi.
C'est vrai qu'on peut en discuter, mais je crois qu'il faut quand même bien garder à l'esprit que l'influence et la puissance, ça a un prix. Et que si on n'est pas prêt à mettre ce prix sur la table, on n'y arrivera pas. L'influence, c'est une relation entre un influenceur et un influencé, ou des influencés. Et l'influencé ne se laisse influencer par l'influenceur. J'espère que je ne perds personne en route, j'avoue que c'est pas très... Mais quand on veut influencer quelqu'un, il faut qu'on ait quelque chose à lui offrir. On ne se fait influencer par d'autres que si on y trouve son intérêt. C'est pas juste pour ses beaux yeux. Et pour ça, il faut qu'il y ait des ressources derrière. Il faut qu'on ait quelque chose à offrir. Donc dire on va pouvoir avoir plus d'influence à moyen constant ou pire avec des moyens plus faibles, à mon avis, c'est une erreur. Regardez quels sont les pays les plus influents aujourd'hui. Si vous interrogez, la plupart des experts ils vont vous dire Chine, Turquie, Russie peut-être, pays du Golfe. Ce sont des pays qui soit... on met beaucoup d'argent sur la table pour des actions d'influence, soit ont des priorités et font des choix, je pense à la Russie, en matière d'influence. C'est-à-dire que quand on veut être influent, il faut s'en donner les moyens. Dire, nous décrétons qu'à partir de ce matin, nous serons influents, nous allons d'ailleurs couper les ressources parce que l'important, c'est d'être influent, on a besoin de moins de personnel, à mon avis, ça n'engage que moi, évidemment, mais c'est une erreur. Je ne pense pas que dans ce domaine-là, on puisse faire mieux avec moins de moyens. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir à une bonne allocation des moyens. Ça veut évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut juste pléthore de personnel sans qu'ils aient forcément des missions extrêmement précises. Non, tout ça se réfléchit. Regardez l'histoire, par exemple, de la présence d'un pays dans les organisations internationales. C'est quelque chose qui se pense à l'avance. Il faut repérer les postes qui vont être à pourvoir. Il faut avoir un vivier de bons candidats sous la main, parce qu'il ne s'agit pas d'y envoyer n'importe qui juste pour avoir le plaisir de dire c'est un Français qui occupe ce poste. Il faut y envoyer la bonne personne qui va faire l'unanimité, qui va être considérée par les autres comme un bon chef ou comme un élément effectivement efficace. Tout ça, ça prend du temps. Ça prend de l'argent, il faut un vivier, il faut un repérage des postes, et puis il faut évidemment les moyens d'aller chercher les voix des autres pays pour qu'ils souscrivent à ce choix français et qu'ils votent pour le candidat que nous allons proposer. Tout ça, ça prend beaucoup de moyens. Donc, quand on veut avoir un outil diplomatique influent, il faut s'en donner les moyens. Et là, l'autre problème, c'est qu'on arrive peut-être à la limite de ce que l'on peut faire dans la rationalisation, dans une plus grande efficacité en coupant les moyens. On est peut-être là arrivé pas très loin de la ligne de flottaison.
Et enfin, pour rester sur cette question de l'influence, j'aimerais qu'on dise juste un mot de la question qui est toujours un peu mystérieuse pour moi, de la francophonie. Alors pourquoi est-ce que c'est mystérieux pour moi ? Parce que c'est souvent présenté comme un gros facteur d'influence de la France dans le monde, etc. Mais j'ai jamais compris exactement pourquoi. Parce que globalement, si ces pays-là parlent français... C'est probablement parce que la France les a colonisés à un moment ou à un autre, donc on pourrait penser que ça fournit le cadre, disons, à des rapports ambigus ou, disons, inégaux. Donc qu'est-ce qu'on en fait de cette francophonie ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de linguistique, on veut promouvoir l'usage du français dans le monde ? Ou est-ce que c'est un réseau d'influence historique, disons, qu'on espère pouvoir mobiliser quand la France en a besoin sur tel ou tel sujet ?
Ça, c'est une vraie question, parce que, alors, d'abord, il y a en France, depuis très longtemps, si on ne prend que l'histoire contemporaine, depuis au moins la Troisième République, on a cette idée que l'influence passe par la culture. Ça, c'est très important. Ça, on est souvent, d'ailleurs, moi, quand je fais pas mal d'entretiens pour d'autres recherches, j'ai interviewé beaucoup de diplomates ou beaucoup d'agents de l'État. Très très vite, ça revient, c'est influence égale politique culturelle. Bon. Donc forcément, dans ce schéma-là, la francophonie trouve une place centrale. C'est-à-dire, parler français, c'est être francophone, c'est être francophile, pour beaucoup de gens. Ça se discute. Ho Chi Minh était un excellent francophone. Bon. Ça se discute. Bon. Il faut la penser, cette francophonie. On ne peut pas se contenter de dire, regardez, c'est formidable, il y a de plus en plus de francophones, parce que l'Afrique, effectivement, est un vivier de francophonie. On va passer en quelques années d'à peu près 200 millions à 300 millions de locuteurs de français, essentiellement avec l'Afrique. Pour autant, on observe que dans des cercles peut-être influents ou dans certaines élites de certains pays, En tout cas, moi, c'est mon observation personnelle, très micro-sociale et à ma seule échelle personnelle. Mais on observe que dans des milieux traditionnellement francophones, le quartier d'Achrafieh à Beyrouth, certains milieux coptes en Égypte, etc., le français se parle de moins en moins au sein des familles, alors que c'était des familles francophones. Bon. Donc il faut une réflexion. Qu'est-ce qu'on veut faire de la francophonie? On ne va pas en faire un instrument de propagande. On est une démocratie libérale. Le but n'est pas évidemment d'en faire un instrument de propagande politique. Mais il faut quand même peut-être aussi la politiser un petit peu, cette francophonie. Alors il y a eu une tentative, c'était en 1997 pour le sommet de Hanoï.
L'idée c'est que parce que ces gens-là parlent français, ils auraient plus accès aux livres, aux films français, donc ils seraient plus séduits par une culture française globale.
Et ils sont au contact aussi de la France, c'est-à-dire qu'ils sont plus réceptifs à notre message, ils peuvent être contactés quand il faut établir ou rétablir un dialogue. On se connaît mieux. Bon, ça, c'est un fait. C'est-à-dire que parler la langue de l'autre facilite le dialogue parce que ça implique une complicité, une proximité qu'on n'a peut-être pas de la même manière lorsqu'on n'a pas fait l'investissement culturel de parler la langue de l'autre. Ça, c'est indéniable. Mais encore faut-il savoir ce qu'on veut en faire. Et est-ce qu'on veut aller vers une francophonie pas simplement linguistique, mais aussi politique, c'est-à-dire dire réfléchir en français, avoir une vision stratégique en français, ça veut dire aussi partager une vision du monde qui n'est pas forcément celle des anglo-saxons, avec lesquels on n'est pas en antagonisme évidemment, mais qui est différente. Ça veut dire aussi qu'on n'a pas forcément non plus la même vision du monde que la Chine, la Russie ou d'autres. C'est être un club en quelque sorte qui partageons un dialogue, pas forcément les mêmes idées, mais un dialogue, une sensibilité sur les questions stratégiques. Ça, Jacques Chirac a essayé de le faire en 97 avec le sommet de Hanoï. Plus récemment, le président Macron a souhaité une réflexion sur la francophonie, une modernisation de cette idée de francophonie, notamment une plus grande présence de la francophonie sur Internet. Mais voilà, tout ça réclame une réflexion. On ne peut pas se contenter de regarder les chiffres de la francophonie et de se satisfaire du fait qu'un certain nombre de personnes parlent français dans le monde. Il faut savoir ce que ça veut dire. C'est un petit peu comme le phénomène des alumni, des anciens diplômés, alors soit de l'université française, soit parfois de l'école de guerre ici. Que fait-on des anciens ou que fait-on des gens qui partagent ou qui ont partagé à un moment avec nous un certain nombre de points, une langue ou de qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les fidélise? Quel message on leur porte? Comment leur montre-t-on que nous ne les oublions pas et que nous les mettons à contribution et que nous sollicitons leur avis, non pas juste pour relayer nos idées, mais parce qu'on souhaite un échange avec eux? Tout ça se pense et encore une fois, ça nécessite des moyens.
Et enfin, il faut évidemment parler de la place, disons, militaire de la France dans le monde. Alors évidemment, c'est compliqué parce qu'on en parle tout le temps ici, et bien plus en détail que ce qu'on a le temps de faire en quelques minutes. On parle des OPEX, de la présence française à l'étranger dans les différents formats de l'émission. Mais formulons-le comme ça. À votre avis, comment est-ce que la scène internationale considère la France comme puissance militaire? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vient en premier et qui est important à l'heure actuelle? Est-ce que c'est le statut de puissance nucléaire? Est-ce que c'est l'allié fidèle des États-Unis qui a été capable de venir fournir des moyens et un appui à tel ou tel moment? Est-ce que c'est aussi la puissance interventionniste qui est capable de s'occuper de théâtre où personne n'a tellement envie de s'engager, comme par exemple le Sahel? C'est-à-dire, quand on voit la France comme puissance militaire, à votre avis, C'est quoi le facteur important, quoi?
Alors, d'abord, il y a tout ce que vous venez de dire, mais encore faut-il le préserver et rester perçu comme une puissance militaire. Alors, c'est effectivement un point compliqué. Vous avez très bien traité ces questions-là à l'IRSEM, notamment par un ouvrage récent des autorités de cette maison sur les opérations extérieures. Donc, vous connaissez très bien tout ça. Moi, de mon point de vue plus modeste, l'impression que je peux avoir, c'est que bon, l'armée française est reconnue dans le monde, vraiment, pour son savoir-faire. Je me souviens, pour vous donner juste une anecdote, de ma dernière année, d'ailleurs, à l'IRSEM, j'étais parti à Pékin avec l'IHEDN et avec le CHEM.
Le Centre des Hautes Études Militaires, voilà. C'est là où... C'est ce qu'on appelle un peu la piste aux étoiles. C'est-à-dire, c'est là où les futurs très grands chefs militaires de demain passent des années à réfléchir.
J'étais donc parti avec la piste aux étoiles à Pékin, là, ça tombe bien. Et on a été reçus par le ministère de la Défense et par les hauts dignitaires de l'armée chinoise. Et c'était en 2015, donc c'était pas très longtemps après l'intervention, le début de l'intervention au Mali de 2013, et ils étaient tout à fait admiratifs. Et leur question, c'était: comment avez-vous réussi à être aussi efficace avec finalement relativement peu de moyens? On était autour de 4-5 000 hommes, c'était pas pléthorique, mais l'opération avait été jugée extrêmement efficace. Et là, on a bien vu, si vous voulez, que dans le monde, et j'ai vu à peu près les mêmes échos aux États-Unis un petit peu avant, on avait salué l'efficacité, le savoir-faire de l'armée française. Cela dit, on le sait, un certain nombre d'atouts, mais aussi peut-être de faiblesses. Les atouts, tels qu'ils sont perçus de l'extérieur, c'est le savoir-faire et la capacité de s'engager avec un soutien généralement pas acquis toujours, parce qu'il y a eu des exceptions, évidemment, bon, l'Irak, mais on n'y est pas allé, l'Afghanistan, c'était plus compliqué, mais généralement, le soutien de l'opinion publique. Bon. Et ça, c'est très envié. Il y a plusieurs choses qui sont enviées dans notre savoir-faire militaire. C'est d'abord, effectivement, le savoir-faire des troupes elles-mêmes. Le soutien relativement acquis de l'opinion publique qui comprend généralement que nous devons prendre nos responsabilités et intervenir dans un certain nombre de cas, ce qui n'est pas le cas partout en Europe, hein, bien évidemment. Et puis notre chaîne de commandement qui nous permet d'aller très vite. Le Mali, ça a été très très vite, ça a été très rapide. Entre le moment où le président de la République estime qu'il faut y aller et les premières frappes sur le terrain en 2013, ça va très vite. Donc ça, ce sont les points forts et ce sont nos capacités les plus reconnues, qui ont d'ailleurs été beaucoup traités par les revues spécialisées. À partir du milieu des années 2000, enfin au début des années 2010, vous avez beaucoup plus d'articles, même d'ouvrages sur l'armée française. Il y a certains alliés qui semblent redécouvrir que l'armée française est une bonne armée, alors qu'ils se connaissaient bien, ils ont travaillé ensemble, y compris en Afghanistan ou ailleurs. Mais là, il y a un regain d'intérêt dans ces années-là pour le savoir-faire français. Maintenant, nous le savons, il y a des défis. Encore et toujours les moyens, c'est-à-dire qu'on a eu une baisse des moyens qui a été ensuite jugulée, on est reparti à la hausse, et c'est une bonne chose. On a la modernisation de nos forces nucléaires, auxquelles il va falloir évidemment penser, on y pense d'ailleurs déjà, très très vite. Et puis il y a, bon, il y a le format d'armée, et puis il y a l'ambition. Que veut-on comme niveau d'ambition? Et donc quel budget doit aller avec? Tout ça, ce sont des questions extrêmement difficiles.
Ça, ce sont des questions pour nous, évidemment, au quotidien. Et est-ce que c'est aussi dans ces termes-là que les autres pays se les posent? C'est-à-dire, est-ce que les autres pays sont en train de regarder en se demandant où va la France, qu'est-ce qu'ils veulent, quels moyens ils se donnent? Ou est-ce que c'est, disons, nos atermoiements, nos déchirements internes, et que de l'extérieur, on voit ce qui se passe, et puis on pense que la France continuera globalement sur ce format-là, quoi?
Ça dépend du niveau, évidemment, d'expertise. Ça veut dire, bon, ça dépend si on parle des opinions publiques générales, qui, grosso modo, certaines considèrent encore la France comme une grande puissance, d'autres pas du tout. En Asie, poser la question, souvent... Non, enfin, on pense aux gros acteurs, mais on ne pense pas forcément à la France. Mais enfin, les gens plus au fait de ces questions savent bien quand même qu'il y a une armée française tout à fait compétente et tout à fait remarquable. Donc, de ce point de vue-là, il y a une perception encore d'une puissance. Cela dit, il ne va pas falloir trop longtemps montrer nos limites. Parce que plus on intervient sans être forcément capable d'y aller tout seul ou de rester tout seul... plus on va montrer nos limites. C'est d'ailleurs la même chose en diplomatie. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une capacité à prendre l'initiative qui est tout à fait importante. Il faut être capable de commencer soit une initiative diplomatique, soit une initiative militaire seul. Il faut aussi ensuite très vite être capable de ne pas rester seul. Parce que sinon, on montre ses limites. Et je crois qu'il ne faut pas, c'est mon avis encore une fois tout à fait personnel, il ne faut pas trop multiplier les prises d'initiative si on n'est pas sûr de pouvoir aller jusqu'au bout et s'il y a un risque de montrer trop fréquemment nos limites. C'est bien d'essayer, parfois on ne peut pas faire autrement que de prendre des initiatives, mais attention à ne pas répéter les scénarios dans lesquels on va se retrouver à être obligé d'admettre nos limites. Je prends juste quelques exemples, pas tellement le Mali en réalité, parce que le Mali, beaucoup de pays du monde ont compris la nécessité d'intervenir à l'époque. Plutôt peut-être la Libye qui a fait débat. Peut-être sur une initiative plus diplomatique, le Liban, où les deux conférences sur le processus de paix israélo-palestinien de 2016-2017. C'est-à-dire, plus on dit attention, vous allez voir ce que vous allez voir, on veut faire quelque chose, et pour ensuite être obligé d'admettre que, bah, non,
S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas.
On n'y arrivera pas tout seul, et s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Plus on prend le risque de relativiser notre puissance. Donc c'est à la fois, on ne peut pas se taire face à certaines situations. Je pense qu'au Mali, on ne pouvait pas ne rien faire. Je pense même qu'en Libye, on ne pouvait pas ne rien faire. Je pense qu'au Liban, un pays qui nous est si proche, on ne pouvait pas non plus ne pas être sensible à cette situation. Maintenant, nous savons très bien qu'on a en face de nous des situations quand même très compliquées auxquelles des plus gros que nous se sont heurtés eux aussi. Donc il ne sert à rien de reprocher à la France une impuissance quelconque. Le Liban, on n'arrive pas à trouver une solution tout seul, ni au conflit israélo-palestinien, mais qui a réussi? Les États-Unis n'ont pas réussi non plus. Donc ce n'est pas le procès de la France qu'il faut faire. Mais attention à ne pas donner trop souvent cette impression qu'on est partant pour organiser une conférence internationale, mais sans trop savoir si on va aboutir à quelque chose après. Parce que ça, pour l'opinion, je dirais, de masse, dans différents pays du monde qui attend le message français, qui attend l'initiative française, ça risque au bout d'un moment d'être épuisant. Give Paris one more chance. Well, now I'm calling it arrogant, calling it cruel. Give Paris one more chance. Yeah, and also trop civilisé. Et mon Dieu, c'est trop cool. Give Paris one more chance. But if you don't think Paris made for love, maybe your heart needs a telegram from up above. If you don't think Paris was made for love, we'll give Paris one more chance. Well, now there's some things I don't like and some things I do, but give Paris one more chance. I can see why Paris would be ugly for you, but give Paris one more chance. The home of Piaf and Trené too must have done something right, must have something for you. If you don't think Paris was made for love, give Paris one more chance, okay?
Alors, du coup, puisqu'il paraît assez clair que donc, la France ne peut pas tout faire toute seule, en tout cas, ne devrait pas se mettre tellement en position de faire face à des échecs, ça pose évidemment la question des partenariats, c'est-à-dire de quels sont les leviers, quels sont les aides, les adjuvants qui peuvent permettre d'atteindre ces objectifs sans laisser la France toute seule. Alors on va, évidemment, il y en a beaucoup et on pourrait en parler pendant des heures, mais on peut peut-être juste commencer par parler évidemment de l'allié américain. Et dans le cadre de ce qu'on appelle parfois le piseau asiatique des États-Unis, depuis quelques années, voire quelques décennies. Alors, la question, c'est le fait que les États-Unis s'orientent et s'inquiètent de l'Asie, de l'Indo-Pacifique, etc. Qu'est-ce que ça fait pour la France? C'est-à-dire, est-ce que il y a l'idée que ce désengagement relatif, disons, entre l'Europe et le Moyen-Orient, fait que la France va devoir prendre plus de place, par exemple au Moyen-Orient, et ça peut se voir très bien sur un point de vue capacitaire, notamment comme on pense à la manière dont le Charles de Gaulle est utilisé, ou pas, dans le Golfe. Est-ce que ça veut dire qu'elle va devoir monter en puissance sur ses capacités, alors qu'on sait que c'est pas forcément la tendance totale, par exemple, si on peut plus compter sur l'aide et le renseignement américain en Afrique subsaharienne? Voilà, qu'est-ce que cette réorientation américaine, en plus on peut rajouter encore le facteur Trump, mais est-ce que ça a révélé, disons, des orientations américaines, qu'est-ce que ça fait sur les perspectives d'action de la France?
Alors d'abord, vous posez la question qui, à mon avis, est cruciale aujourd'hui, c'est effectivement, on ne peut pas tout faire tout seul, on ne peut même pas faire grand-chose tout seul, donc la question est avec qui? Quels sont les partenaires? Ça peut être des partenaires, je dirais, structurels, institutionnalisés dans le cadre d'une alliance, ça peut être des partenaires plus ad hoc sur un dossier donné, mais c'est toujours cette question de savoir avec qui pouvons-nous agir. Alors effectivement, première question, vous avez raison, les États-Unis, bon, c'est vrai que l'expérience Trump nous a traumatisés à la fois à juste titre et peut-être aussi de façon exagérée, à juste titre parce que ça nous montre, mais c'était pas la première fois qu'on le voyait, que les États-Unis ne seraient pas toujours là. Pour nous, on se souvient des années 90 où dans les Balkans, ils ont mis du temps, les États-Unis, à entendre notre message et à s'impliquer. Donc il y avait une première alerte qui avait d'ailleurs occasionné un rapprochement franco-britannique assez fort à ce moment-là. Mais effectivement, la brutalité du style Trump fait que cette fois, on l'a vu de façon flagrante, on l'a pris en pleine figure, et on s'est dit, les États-Unis, non seulement ne seront peut-être pas toujours là quand on les appelle, ce qui est une première chose, mais ils pourraient même, dans certaines situations, être contre nous, et jouer contre nous. Et ça, c'est effectivement plus grave. Alors, La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Biden, à lui tout seul, constitue un retour à la normale, un miracle absolu, fin d'une parenthèse cauchemardesque ? Tout le monde sait bien que non. Le problème, il est plus profond que ça. Aujourd'hui, les États-Unis ont une crainte, ont un nouveau peer competitor qui a été désigné, c'est la Chine, et on sait très bien que l'essentiel de leur réflexion stratégique va être orienté autour de ça. Et que l'essentiel de leurs moyens vont être consacrés à faire du containment ou du rollback, on ne sait pas encore jusqu'où, mais vont être consacrés à contrer le compétiteur chinois. Bon, comment nous allons être traités dans cette affaire ? Il y a deux risques. Le premier risque, c'est qu'effectivement les Américains disent « Écoutez, vous êtes gentils, mais maintenant vous n'êtes plus une priorité, ça fait très longtemps qu'on attend de l'Europe qu'elle soit un fournisseur de sécurité et non plus un consommateur de sécurité. Donc si vous n'y êtes pas arrivé, bah écoutez, tant pis pour vous, parce que là, on a d'autres problèmes à gérer. » Ou alors, ça va être plus pernicieux, deuxième risque, ils vont vouloir renforcer leur présence en Asie, y compris sur des dossiers brûlants qui peuvent s'enflammer à tout moment. On pense à Taïwan ou plus globalement à la mer de Chine du Sud. Et là, ils vont exiger notre présence et ils vont nous demander d'être avec eux dans ce que considèrent comme véritablement la grande affaire des années à venir. Et ils vont souhaiter que leurs alliés soient avec eux dans cette zone. Et là, il va falloir se poser la question de savoir ce que l'on fait. Est-ce que si nous disons, bon, écoutez, non, on a bien réfléchi, c'est pas notre affaire, allez-y tout seul, là, il peut y avoir effectivement un retour de balancier du type, bon, écoutez, puisque c'est comme ça, vous allez vous débrouiller tout seul parce qu'on compte sur vous, vous n'êtes pas là, écoutez, sur les questions européennes, débrouillez-vous. Et là, c'est un problème parce que quand même beaucoup d'Européens considèrent que la première menace, c'est la Russie, pour eux, et pas la Chine. Ça, c'est la question américaine qui va être effectivement cruciale et qui pose, et forcément, par ricochet, la question de l'Europe. C'est-à-dire, est-ce que l'Europe a les moyens de se débrouiller toute seule ? Pour le moment, la réponse est non.
Oui, alors justement, c'est ce que montre très bien un article, enfin une contribution de Barbara Kuhn, c'est que bon, l'Europe, la question européenne, c'est toujours autour du couple franco-allemand. Il y a d'autres partenaires, notamment industriels, etc. Il y a d'autres partenariats. Et bon, on voit encore aujourd'hui, parce qu'il y a notamment des hauts cris et des choses autour du SCAF, autour des projets de chars d'assaut, etc. Voilà, c'est le grand partenariat. Et ce que montre très bien la contribution de Barbara Kuhn, c'est qu'il y a un vrai problème culturel là-dedans, parce que la France et l'Allemagne, on pense que ça doit être le moteur nécessairement de la défense européenne, et peut-être que ça doit l'être. Mais en fait, quand on parle de défense, de politique internationale et de sécurité, clairement les deux n'ont pas les mêmes ambitions, n'ont pas les mêmes conceptions de leur passé, de leur présent et de leur avenir. Et du coup, un peu fatalement, ça coince aujourd'hui, et ça va probablement coincer pour un bon moment, tant qu'il y a un tel décalage d'ambition et de perception de soi et de l'autre, en quelque sorte.
Oui, il y a deux couples, et non pas un triangle, en Europe, et non plus dans l'Union européenne, puisque les Britanniques sont partis, mais il y a évidemment les trois pôles, qui sont Grande-Bretagne, France, Allemagne. Le couple franco-britannique, il est essentiel, il est très compliqué. Le dialogue avec les Britanniques n'est pas simple du tout. Et d'ailleurs, une ancienne doctorante et docteur de l'IRSEM, Alice Panier, l'a très bien montré dans son ouvrage récent. Et puis, il y a le franco-allemand. Alors, le départ des Britanniques est quand même une mauvaise nouvelle. Alors, ça facilite les choses sur d'autres plans, mais disons, ça n'a pas facilité forcément le dialogue. Les Britanniques sont un partenaire absolument fondamental pour la France, parce que ce sont les deux armées européennes qui ont une capacité de projection, une culture de projection, qui sont des puissances nucléaires, qui sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, etc. etc. Et donc la sortie de l'Union européenne, le Brexit, pose la question de réinventer ce tandem franco-britannique. Et il y a effectivement la question de l'Allemagne. Alors effectivement, je ne sais pas si c'est culturel. Oui, on peut dire ça comme ça.
Très large, disons.
Mais en tout cas, il y a un décalage très fort. On n'est pas d'accord sur... On est d'accord sur pas grand-chose. En réalité, avec les Allemands, le nucléaire, ils ne veulent pas en entendre parler, mais ça peut, on peut les comprendre. Mais il se trouve que nous, c'est la clé de voûte de notre défense, donc ça pose quand même un problème. L'intervention extérieure n'est pas non plus tout à fait leur tasse de thé, pour des raisons historiques qu'on peut parfaitement comprendre, mais pas seulement. C'est-à-dire que je crois que il y a en France cette idée très forte que intervenir à l'extérieur, projeter des troupes, c'est prendre ses responsabilités. Et nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité, et nous estimons qu'à un moment, il y en a qui doivent y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Donc nous, on y va. C'est aussi une façon de montrer qu'on en est capable et qu'on compte, bien évidemment. Mais pour nous, c'est une prise de responsabilité. Nous assumons nos responsabilités quand nous lançons une opération extérieure. En Allemagne, c'est pas vu comme ça. Très souvent, ce qui m'a frappé dans le dialogue avec nos amis allemands, c'est qu'ils considéraient presque à l'inverse qu'on était un peu irresponsable à déclencher comme ça tout le temps des opérations militaires extérieures. Certains nous soupçonnent même parfois de le faire pour des raisons de politique intérieure, ce qui, à mon avis, là, est une erreur totale. Parce que quand on sait l'aventure que représente une action militaire extérieure, personne n'a envie de prendre ce risque pour des raisons purement électorales ou politiciennes. Mais il y a ce, je crois que la pomme de discorde la plus importante à régler avec les Allemands, c'est cette question du rapport au fait d'être responsable quand on fait une opération extérieure. Pour nous, c'est assumer nos responsabilités. Pour nos amis allemands, très souvent, c'est plutôt irresponsable de lancer aussi rapidement une opération militaire. Et là, il faut vraiment qu'on travaille ensemble, parce qu'en réalité, on a deux points forts qui sont très, très opposés, mais qui pourraient être extraordinairement complémentaires. C'est que précisément, nous avons cette capacité, dans notre chaîne de commandement, de prendre nos responsabilités très vite et de déclencher une opération très vite. Eux, ils ont cette culture du consensus, cette association beaucoup plus forte, c'est vrai, du Parlement et de différentes institutions, qui fait que ça peut être plus lent à véritablement entériner, mais une fois que c'est fait, c'est beaucoup plus consensuel et ça peut être durable. Et je pense que l'alliance entre les deux mérite véritablement d'être travaillée pour un tandem efficace.
Alors, enfin, pour terminer, j'aimerais explorer peut-être un peu les relations de la France avec deux des grands, alors j'ai pas envie de dire forcément adversaires, mais en tout cas menaces ou enjeux stratégiques tels qu'elle les définit, que sont la Russie et la Chine. Et surtout, j'aimerais le prendre du point de vue de la France, bilatérale. C'est pas facile, parce qu'évidemment, la France est prise dans l'alliance américaine, et on sait que les États-Unis ont une relation extraordinairement compliquée avec ces deux grands pays-là, ces deux grandes puissances. Mais en même temps, il y a aussi une vraie autonomie et une vraie capacité d'action française. Alors, on a vu, par exemple, Emmanuel Macron, en 2017, très rapidement vouloir rétablir un dialogue bilatéral avec Vladimir Poutine, malgré le Donbass, malgré la Crimée, etc. Il y avait l'idée que la France pouvait parler, pouvait faire l'interface directe, avec plus ou moins de succès. Donc voilà, est-ce qu'on peut dire où on en est de cette relation bilatérale, mais aussi évidemment avec d'autres acteurs qui gravitent toujours autour, parce qu'il y a les pays d'Europe de l'Est qui sont toujours inquiets, et le rôle de la France est loin d'être consensuel là-dessus. Mais voilà, quelle est la...
Alors, d'abord,
quel est le dialogue ?
Alors d'abord, c'est une question qui est évidemment importante, mais qu'il est toujours très difficile, je trouve, de traiter en France. Vous l'aurez remarqué sans doute. Mon sentiment, c'est qu'il y a trop de passion sur la Russie et pas assez sur la Chine. C'est-à-dire que j'ai l'impression que sur la Chine, beaucoup de gens n'ont pas encore pris la mesure de ce que ça signifiait. Alors que sur la Russie, pour des raisons qui, je dois dire, sont un peu mystérieuses, pour moi, il y a beaucoup de passion. On trouve des poutinolâtres absolus, on trouve des détracteurs absolus de la Russie, pas forcément de moyen terme. Je ne sais pas d'ailleurs d'où ça vient. Je pense qu'il y a une relation très compliquée à la Russie en France qui est très ancienne, qui date soit des emprunts russes, soit de beaucoup de choses. On a une double russophilie en France, une plus conservatrice, l'autre plus progressiste. La russophilie conservatrice voit plutôt la Sainte Russie ou le Poutine défenseur de l'Occident chrétien, peut-être. Et la russophilie plus progressiste voit plutôt en la Russie l'acteur capable de bousculer enfin les Américains, que une partie de l'échiquier français aime bien finalement, mais on a du mal à avoir un dialogue serein, un débat serein sur ces questions. Alors, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique à cette question. Est-ce que la Russie et la Chine sont des puissances avec lesquelles il faudrait arrêter de parler ? Bien évidemment, non. Est-ce qu'on peut se permettre de ne pas prendre à bras le corps leur position internationale et avoir une vraie doctrine là-dessus ? Bien évidemment, non. Est-ce qu'il faut parler avec ces deux puissances ? Bien évidemment, oui. Pour autant, est-ce qu'elles ont les mêmes valeurs que nous ? Non. Est-ce qu'elles ont les mêmes intérêts que nous ? Non. On peut trouver des intérêts communs. On peut trouver à un moment un dialogue tactique qui nous permet de nous retrouver et peut-être de trouver un modus vivendi sur un certain nombre de dossiers. Pour autant qu'on puisse en juger par les développements récents, nous ne défendons plus les mêmes valeurs. Et ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter ces cultures. ça ne veut pas dire qu'il faut cesser le dialogue. Mais on a un vrai problème qui est d'ailleurs assez multiple. Il est géopolitique, mais il est même sociétal sur certains plans. On voit aujourd'hui, on pourrait aussi parler du cas très particulier qui est la Turquie. C'est encore un autre débat. Mais on voit bien que même sur des questions sociétales, je pense par exemple à la place des femmes, là où des pays en démocratie libérale européenne insistent de plus en plus sur la parité, sur le droit des femmes, etc., on voit qu'il y a un recul ailleurs. On voit qu'il y a une dépénalisation des violences conjugales ici, une sortie de la Convention d'Istanbul ailleurs. Bon, on voit bien que ce n'est pas juste géopolitique. On a un vrai problème. Quel est l'état des relations? Je crois que personne ne peut s'amuser à une déflagration totale. On a eu très peur à certains moments parce qu'avec la Turquie, c'est quand même monté assez haut hein, dans les derniers mois. La tension franco-turque, c'est en train visiblement, à l'heure où nous parlons en tout cas, de s'apaiser. Et c'est pour ça que tout ça est très compliqué parce que c'est un peu schizophrène. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas cesser le dialogue. Ce sont des pays stratégiquement incontournables. Nous ne pouvons pas non plus faire comme s'ils défendaient les mêmes intérêts et les mêmes valeurs. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut peut-être revenir aux sources, au béaba de la diplomatie. C'est-à-dire que la diplomatie, c'est justement fait, non pas pour parler uniquement avec les gens qui pensent comme nous, mais justement pour trouver un terrain d'entente et limiter les dégâts et construire des garde-fous pour que la relation ne dégénère pas, précisément avec des pays dont nous savons qu'ils ne pensent pas comme nous.
La question, c'est aussi une question diplomatique. C'est la question des leviers, si ce n'est l'arrêt des discussions. C'est-à-dire, voilà, c'est... Je sais pas, quand la Russie fait des tentatives de déstabilisation des élections, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, quand la Chine fait... Ah bon, il peut y avoir une infinité de raisons pour lesquelles être fâché et considérer que ces pays-là ne jouent pas franc jeu et que les relations sont pas bonnes. Quand la Russie fait des opérations de désinformation ou d'influence en Afrique subsaharienne pour saper la puissance française, enfin en tout cas la présence française. La question c'est quel est le levier, si ce n'est d'éventuelles sanctions économiques contre des oligarques, mais bon, les États-Unis le font et c'est pas forcément de grand effet. Si ce n'est exclure tel ou tel pays du G7, du G5 à un moment ou à un autre, mais en même temps, qui est-ce qu'on punit? On se punit autant qu'eux quand ils sont pas autour de la table. Voilà, quels sont les leviers dans ce genre de relation, quoi?
D'abord, je pense qu'il faut aujourd'hui accepter que la nouvelle compétition internationale passe par ce type d'action, que nous appelons souvent à juste titre la déstabilisation, qui n'est pas forcément acceptable, mais qui en même temps est un prolongement assez évident des nouvelles relations internationales, des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, etc. Les stratégies d'influence, elles ont toujours existé. C'est pas du tout pour les défendre, mais quand vous parlez aux Russes de leur déstabilisation, de Russia Today, de Sputnik, de tout ce que vous voulez, ils vous répondent, et vous, Voice of America, Radio Free Europe, etc., nous ne faisons que répondre. Bon, alors, on connaît ce débat, mais je crois que plus globalement, il faut, évidemment, on ne peut que déplorer un certain nombre d'actions qui sont tout à fait inacceptables, mais il faut aussi comprendre que ça va être comme ça. Tout le temps. C'est la nature. Alors, c'est peut-être mieux que d'envoyer les chars à Prague ou à Budapest, cela dit. Mais en tout cas, c'est la nature, aujourd'hui, des relations internationales. Nous sommes dans une lutte qui peut passer par de la déstabilisation, des fake news, etc. Alors, la vraie question, c'est comment on riposte à ça? À mon avis, on ne peut pas être uniquement sur la défensive. Bien sûr, on peut à un moment, mais si à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous plaît pas sur les ondes, on dit on va avoir des sanctions commerciales contre vous, on va pas y arriver. La question c'est, est-ce qu'on riposte sur le même terrain? Est-ce que nous aussi nous lançons dans le sharp power et les fake news? Non, parce que ce n'est pas compatible avec notre ADN démocratique libéral. Mais on peut, cela dit, d'abord sensibiliser les populations, toutes les couches, c'est-à-dire les entreprises, les élites, les décideurs, les leaders d'information, les médias, les étudiants, tout ce que vous voulez, on peut les sensibiliser au fait que nous vivons dans un monde comme ça. Maintenant, vous avez fait des très bonnes études à l'IRSEM sur ces questions-là, notamment sur la Russie, mais pas seulement. C'est une véritable culture stratégique maintenant. Alors on peut appeler ça guerre hybride quand c'est accompagné d'actions militaires, mais quand c'est pas l'action militaire, quand c'est juste des fake news ou de l'ingérence dans des processus électoraux, Il faut s'attendre à ce que ce soit comme ça. Donc il faut bien sûr, sur le plan technique, avoir les garde-fous pour empêcher ça et rendre ça impossible, voire effectivement se doter de capacités offensives pour riposter si on était très embêté sur ce terrain-là. Mais il faut aussi sensibiliser le tissu social de manière à ce que tout le monde comprenne cette nouvelle règle du jeu. Et du coup, à partir du moment où ça ne passe plus inaperçu, ça devient beaucoup moins opérationnel. Si à chaque fois que vous avez une couverture de magazine ou quelqu'un qui fait l'éloge de tel ou tel pays ou un candidat aux élections qui relaie l'agenda politique d'un pays étranger, si tout le monde en est conscient, il ne va plus le faire. Et ça, je crois que c'est tout à fait important sur le plan culturel de se mettre dans tous collectivement à l'échelle du pays dans ce nouveau contexte, dans ce nouveau bain international qui est que nous sommes dans une guerre. On peut appeler ça de subversion, mais je crois que ça ne sert plus à rien, si vous voulez, de montrer du doigt en disant « regardez comme ils sont méchants, regardez ce qu'ils ont fait », parce qu'on s'y attend. On le sait, ce qu'il faut, c'est vraiment se plonger dans ce nouveau contexte stratégique et penser les réponses, plus seulement être dans la dénonciation et dans la sanction. Il nous faut des capacités de contre-influence, il nous faut des capacités offensives en la matière, et surtout, il nous faut des capacités de résilience contre ces menées-là.
Et enfin, pour essayer de rééquilibrer un petit peu ce décalage de passion que vous énonciez tout à l'heure, j'aimerais dire un mot de la Chine. Alors, effectivement, c'est beaucoup moins polarisant dans le débat que la Russie, même si on en parle régulièrement, notamment parce que l'ambassade de Chine à Paris se distingue pas toujours par sa subtilité ni sa cordialité dans la communication, notamment vis-à-vis de certains chercheurs. Mais en même temps, il y a aussi des choses beaucoup plus profondes. Et aussi une vraie dépendance de la France par rapport à ce mastodonte qu'est la Chine. J'avais oublié complètement, mais par exemple l'épisode de 2008, où Nicolas Sarkozy avait quand même beaucoup monté le ton face à la Chine au moment des JO de Pékin, et puis avait, en sens inverse, très très rapidement changé de ton quand les menaces de sanctions de la Chine étaient arrivées. Enfin, encore récemment, pendant la pandémie, quand il y a eu un problème de masque, on s'est rendu compte que la France était extrêmement dépendante de la Chine et avait pas forcément les moyens de monter le ton à certaines périodes, disons. Et d'un autre côté, il y a aussi, on en parlait récemment avec l'amiral en charge de la zone Pacifique, une volonté de s'affirmer en Indo-Pacifique pour contrer l'influence chinoise croissante. Donc en quelque sorte, où est-ce qu'on en est de ce mouvement de balancier? C'est-à-dire, en sens inverse aussi, est-ce que la France est si importante que ça pour la Chine comme domaine d'action? Est-ce que c'est aussi important que pour la Russie, par exemple, d'influer sur la France et de contrôler l'influence française? Et en sens inverse, quelles sont quand même les modalités d'action de la France face à ce géant de plus en plus affirmé qu'est la Chine?
D'abord, c'est toujours important, effectivement, de ne pas voir la France contre soi, pour des tas de raisons, hein, de par notre présence dans les organisations internationales, aux Nations Unies, dans des tas d'autres cercles, bien évidemment, au sein de l'Union Européenne, au sein de l'OTAN, etc. Donc, je pense que personne, y compris la Chine ou la Russie, ne peut considérer la France comme quantité négligeable. Donc oui, c'est important. Maintenant, où en est-on dans ce que vous appelez, à juste titre, je crois, un mouvement de balancier? D'abord, je crois qu'il ne faut pas de mouvement de balancier, parce que ce sont des puissances extrêmement rationnelles, Russie comme Chine d'ailleurs. Puissance rationnelle, ça veut dire aussi qu'elles testent. Elles comprennent très bien quand on recule à chaque fois qu'elles montrent les dents, ou si au contraire on ne recule pas, et que non seulement on ne recule pas, mais on est capable de forger une sorte d'alliance et de bloc au sein de l'Union européenne ou ailleurs pour les contrer. Bon, donc je crois qu'il faut une cohérence. Ce qui me frappe beaucoup dans... Vous avez parlé de l'épisode de 2008 et des Jeux Olympiques. Il y en a eu d'autres. En 2008, il y a eu les Jeux Olympiques, puis il y avait la visite du Dalai Lama. Il y a eu beaucoup de choses avec la Chine, et c'était tout à fait intéressant. Parce que si on regarde la posture de l'Allemagne vis-à-vis de la Chine, elle est souvent beaucoup plus ferme sur les dossiers, et en même temps, ça fait beaucoup moins de dégâts dans la relation bilatérale, et l'Allemagne est très présente économiquement, commercialement, dans cette relation avec la Chine. Peut-être parce que justement leur position elle est assez claire. Moi je crois qu'il faut une cohérence dans notre relation à ces puissances. Il faut tout à fait admettre qu'elles ont des intérêts, nous les voyons, nous les connaissons. Parmi ces intérêts, il y en a qui sont acceptables, dont on peut discuter, d'autres qu'on doit négocier parce qu'on estime qu'ils vont quand même un petit peu loin, mais qu'on doit pouvoir quand même en parler avec eux pour qu'ils puissent faire quelques concessions, moyennant quoi on en parlera avec eux. Et puis il y a d'autres choses qui sont des lignes rouges où là c'est non. Et quand c'est non, il faut le maintenir, il faut faire un front avec d'autres pays. Et je crois qu'il faut bâtir une réponse cohérente, parce que nous avons affaire à des puissances qui elles-mêmes sont cohérentes, qui savent parfaitement complètement évalué le rapport de force, et même d'ailleurs relativement au centre de leur action, hein, cette obsession du rapport de force, et elles sont rationnelles. Et donc nous devons, nous aussi, être non seulement rationnels, mais constants. Alors aujourd'hui, c'est très difficile de savoir ce que nous pesons, parce que ce sont aussi des pays qui savent très bien qu'on peut changer de gouvernement, qu'on peut changer de posture, qu'on n'aura pas toujours la même ligne, que si à un moment il faut attendre un peu, faire le gros dos avec tel ou tel dirigeant pour attendre le suivant, eh bien on le fera. Donc ça rend la tâche un petit peu plus compliquée, évidemment, surtout en face de pays qui ont probablement le même dirigeant, ou qui auront probablement le dirigeant pendant 20 ans. Donc à Vladimir Poutine, c'est déjà le cas. Pour Xi Jinping, on imagine qu'il va pas lâcher le pouvoir tout de suite. Donc il y a une durée de l'autre côté qui est un fonctionnement très différent du système démocratique. Et il ne faut pas que ça soit un piège pour nous. Donc il faut vraiment chercher la cohérence et montrer que quels que soient les dirigeants, les intérêts restent les mêmes, les lignes rouges restent les mêmes. C'est ce que les États-Unis ont relativement bien réussi dans le passage de Trump à Biden. C'est-à-dire qu'effectivement, le style a changé, ça je crois que tout le monde a pu le voir, mais le coup d'arrêt, la volonté américaine de mettre un coup d'arrêt à un certain type d'action chinoise est restée dans un consensus bipartisan aux États-Unis. Je crois que nous devons nous inspirer de cette méthode.
Merci beaucoup Frédéric Charillon d'être revenu à l'IRSEM pour parler de cet excellent ouvrage « La France dans le monde » paru en début d'année chez CNRS Éditions. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vos remarques, notes et commentaires sur l'émission sont grandement appréciés, que ce soit par Apple Podcasts ou SoundCloud, ou par les réseaux sociaux de l'IRSEM, ou encore directement à collimateur@irsem.fr. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.